chose de bon sens que dans un monde normal, je ne devrais même pas évoquer parce que tout le monde les partagerait. Simplement, ce sont des arguments rationnels que vous pouvez mettre en avant pour faire réfléchir les gens qui vous entourent et qui, trop souvent, sans même le savoir, sont manipulés par des slogans de la culture de mort. C'est important parce que personne n'aime être manipulé. C'est important de montrer aux gens qu'ils ont le droit de mener une réflexion intellectuelle autonome et adulte, et de ne pas se laisser de ne pas se laisser travailler, de ne pas se laisser simplement conduire comme des moutons par de purs slogans qui s'effondrent dès lors qu'on les considère un peu attentivement. Et il est clair que la réflexion est quelquefois quelque chose qui nous amène là où nous ne voudrions pas aller. Ce serait beaucoup plus confortable, évidemment, si on nous disait, mais oui, la pornographie, c'est pas si grave, la contraception, c'est très bien, l'avortement, pourquoi pas. Ce serait infiniment plus confortable. Quelquefois, la vérité que l'on peut atteindre a quelque chose de gênant parce qu'elle nous gêne dans notre recherche légitime par ailleurs de confort. Mais faire de la philosophie, mener une réflexion intellectuelle authentique, c'est accepter d'être parfois bousculé par la réalité du réel. Parfois, le réel ne fait pas plaisir à entendre. Mais c'est une attitude infantile que de refuser le réel simplement sous prétexte qu'il n'est pas agréable à entendre. C'est typiquement le fait d'un enfant en bas âge et mal élevé de surcroît que de commencer à hurler et se boucher les oreilles quand il entend quelque chose qui ne lui plaît pas. Un adulte, c'est celui qui accepte que de temps en temps, la réalité est quelque chose qui fait mal, mais que vivre dans le déni du réel ne peut jamais constituer une solution. Et lorsqu'on examine des problèmes sociétaux, je le redis, des problèmes sociétaux comme la contraception, comme l'avortement, comme la pornographie, on voit qu'ils sont liés et on découvre très rapidement que tout cela cache, que tout cela, ce ne sont que différentes manifestations d'une recherche égoïste de confort, où nous voulons pouvoir poser des actes sans assumer les éventuelles conséquences qui en découlent. Et je voudrais, pour terminer, parce que malheureusement le temps passe trop vite, pour moi en tout cas, j'espère pour vous aussi, je voudrais terminer par une métaphore qui, à mon avis, est éclairante et qui pourrait servir de déclic dans certaines conversations qu'on peut avoir avec des gens qui auraient tendance à se braquer sur une question comme celle de l'avortement. On peut prendre un autre problème, un problème d'un ordre très différent, mais qui se laisse analyser d'une façon analogue. Demandez à votre interlocuteur, quel qu'il soit, ce qu'il pense du comportement d'une personne qui mange et puis se fait vomir. Et puis recommence à manger et recommence à se faire vomir. Deux solutions. C'est une pathologie ou c'est de la perversité. Les deux sont quelquefois liés, mais si c'est une pathologie pure et simple, eh bien, vous savez que les gens qui souffrent de ce type de pathologie doivent consulter. Ce sont des gens qui vont mal et vont chez un médecin pour se faire aider parce que c'est quelque chose qui est profondément en déphasage avec la logique même de l'alimentation. Ce sont des gens qui souffrent parce qu'ils ont un comportement compulsif, qui est un comportement autodestructeur, et ils vont chez un médecin pour se faire aider justement parce qu'ils se rendent bien compte que quelque chose ne tourne pas rond. Si ce n'est pas une pathologie, au sens proprement médical du terme, c'est de la perversité. Comme chez ces riches romains de l'Antiquité, qui lorsqu'ils allaient à un banquet chez quelqu'un d'encore plus riche qu'eux, qui faisait manger des langues d'oiseaux venus des pays étrangers, eh bien, voulaient goûter à tout, et donc régulièrement, au cours du repas, allaient se faire vomir pour continuer à manger. Tout le monde va vous dire, c'est pervers de faire comme ça. C'est irrationnel. C'est aller à l'encontre de la logique même de l'alimentation. C'est quelque chose qui est insultant pour ceux qui ont faim. C'est quelque chose qui est insultant pour les êtres rationnels que nous sommes, que de manger simplement pour le plaisir de manger, puis se faire vomir et manger encore. Les gens que vous allez interpeller sur ces questions-là seront d'une lucidité exemplaire. Manger et se faire vomir pour remanger encore simplement pour le plaisir de manger ou parce qu'on éprouve un besoin compulsif de manger, c'est ou bien de la pathologie ou bien de la perversité. Eh bien, pourquoi les gens qui sont si lucides lorsqu'il s'agit de manger sont-ils soudainement infiniment moins lucides lorsque cela ne se passe plus dans l'estomac mais 15 cm plus bas? Ou 20, l'estomac c'est assez haut je crois. Ma biologie est un peu fantaisiste quelquefois. Pourtant c'est la même chose qui se passe. Les gens recherchent une gratification sexuelle, mais une gratification qui est exclusive de ses conséquences les plus naturelles que l'on cherche à éviter. Manger et refuser de grossir, manger et refuser d'avoir une indigestion parce qu'on a trop mangé, et donc se faire vomir, c'est pathologique ou pervers. Avoir une activité sexuelle et refuser la conséquence la plus normale et la plus naturelle de cette activité sexuelle, c'est pathologique ou pervers. C'est exactement le même type de raisonnement, à la fois dans la question de la nourriture et dans la question de la sexualité. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La recherche du plaisir n'est pas une mauvaise chose, à condition que le plaisir ne soit pas la finalité recherchée, mais le corollaire, la cerise sur le gâteau. Aristote et saint Thomas sont parfaitement clairs là-dessus. Quelqu'un qui est vertueux éprouve du plaisir à agir vertueusement. Si vous agissez vertueusement mais que ça ne vous procure aucun plaisir, c'est que vous n'êtes pas vertueux. Voilà un bel encouragement pour devenir vertueux. Devenez vertueux, non seulement vous le serez, mais en plus ça vous fera plaisir. Donc le plaisir est bien là comme un accompagnement que nous accueillons avec une très légitime satisfaction. Parce que la nature est bien faite, et lorsque nous agissons en fonction de la nature, il y a un plaisir naturel et qui est bon, qui en découle. Mais la recherche du plaisir pour lui-même est quelque chose d'extrêmement dangereux. Si vous dites ça aux gens, ils vont vous dire « mais quel est le problème, rechercher le plaisir, c'est très bien ». Eh bien, posez-leur la question. Le serial killer, c'est à la mode dans les romans et dans les films et dans les séries, le serial killer éprouve un plaisir manifestement pathologique ou pervers à faire souffrir ses victimes. Irez-vous donc dire que la recherche du plaisir est une bonne chose? Pas du tout. Si le plaisir recherché accompagne une action mauvaise, ce plaisir est mauvais. Le plaisir du serial killer est un plaisir pervers parce qu'il accompagne une action mauvaise. Le plaisir, la qualité du plaisir, sa qualification morale, s'évalue à l'aune de l'acte qui l'accompagne. Un acte bon est associé à un plaisir qui est qualifié de bon non pas parce qu'il est bon par lui-même, mais parce que l'acte qui a été poursuivi était bon. En revanche, un plaisir obtenu comme gratification en récompense d'un acte mauvais est un plaisir qui est lui-même mauvais aussi. Donc, on n'est pas du tout ici occupé à dire que nous sommes des moralistes qui sommes ennemis du plaisir, nous nous rendons simplement compte qu'il y a une logique à l'œuvre dans la réalité, logique que nous découvrons assez facilement et avec beaucoup de lucidité lorsqu'il s'agit par exemple de la nourriture, et que nous ferions bien aussi d'appliquer dans d'autres circonstances, dans des circonstances qui nous engagent beaucoup plus, parce que il est vrai que si je mange trop, si je vais au Burger King ce soir et que je mange 3 Whoppers d'affilée, demain j'aurai une mauvaise journée. Mais enfin, après-demain, c'est réglé. Il est clair évidemment que l'activité sexuelle ne nous engage pas seulement sur le lendemain, mais éventuellement pour le reste de notre existence. Et voilà pourquoi nous avons une résistance et une réticence. Parce que nous savons que les actes que nous posons ont des conséquences très longue durée. Mais fuir la réalité n'est jamais une solution. Parce qu'un jour ou l'autre, elle nous rattrape. Et on ne peut jamais être heureux si on vit dans une posture de déni. La réalité du réel est quelque chose auquel nous devons apprendre à être dociles. Au fond, la vraie philosophie, c'est ça. La vraie philosophie, ce n'est pas de construire des châteaux dans le ciel. La vraie philosophie, c'est une humble docilité à la réalité, tout simplement. Je vais en rester là, parce que comme ça vous pouvez poser quelques questions. Et j'en profite aussi pour vous dire que le cours de philosophie que j'ai fait à propos de l'avortement, je l'ai étendu et j'en ai fait un petit livre, qui est un petit livre qui peut vous intéresser vous, mais qui peut aussi vous intéresser lorsque vous voulez débattre avec d'autres personnes et que vous pouvez éventuellement aussi présenter à des gens qui acceptent de réfléchir. Parce qu'au fond, des gens qui ne sont pas d'accord mais qui acceptent de réfléchir font la démarche philosophique. Et ce sont des arguments philosophiques qui sont proposés pour que chacun puisse vraiment réfléchir sur base de réflexions et pas simplement de slogans. Alors c'est un livre que vous pouvez acheter auprès de moi au prix de 10€ tout simplement, et ça me permet, ça vous permet de me soutenir parce que j'ai perdu mon job, de soutenir mon éditeur pour lui montrer qu'il a fait le bon choix, c'est un petit éditeur belge courageux, et égoïstement, voilà, je suis venu avec 18 kilos de livres, c'est affreusement lourd à porter, et donc j'espère ne pas devoir retourner à la gare du Nord avec 18 kilos de livres. Je vous laisse maintenant pour quelques questions et je vous remercie beaucoup.
Avez-vous des questions ? Alors, en général, ça prend un peu de temps. Et l'organisateur doit en poser une.
Ouvrez le feu alors, monsieur l'abbé.
Alors, vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a chiffonné, donc c'était... C'était par rapport à... C'était quoi ? Donc, vous avez dit que pour l'espèce humaine, le propre de l'espèce humaine n'est pas forcément le fait de penser.
Parce qu'il n'y a pas que ça. Oui.
Il n'y a pas que ça.
Oui, donc ça fait partie des caractéristiques. Oui, oui, si je me suis mal exprimé, vous avez raison. Donc, bien entendu, la faculté de penser est une faculté propre à l'homme, mais il n'y a pas que ça qui fait l'homme, il y a la volonté aussi. Mm-hmm. Et puis, ce n'est pas le propre de l'homme, parce qu'en théologie, on sait que les anges pensent aussi. Pas de la même façon.
Très bonne réponse.
Mais voilà. Mais non, vous avez absolument raison, donc, bien entendu.
C'est une excellente réponse. Mais vous aviez déjà répondu également quand vous parliez des émotions.
Oui.
Et la nature humaine est justement cette synthèse extraordinaire entre le corps et ce que le corps peut faire vivre à l'âme. Et en effet, dans les puissances de l'âme, vous avez l'intelligence et la volonté. Et... c'est assez philosophique et descriptif de dire qu'il y a l'intelligence d'un côté et la volonté de l'autre, parce que ça n'existe pas de ces deux puissances séparées. L'intelligence saisit le réel ce qui lui est présenté, et la volonté ensuite peut faire des comparaisons et peut se tromper. Mais c'est dans une très grande philosophie thomiste qu'on a même parfois utilisé contre saint Thomas, c'est que les sens qui informent ensuite l'intelligence humaine ne se trompent pas. Leur objet ne peut pas les tromper, sauf si vous voulez, maladie ou souffre difficulté. Alors... Donc, c'était ma première question. Est-ce que vous avez une autre question ?
Moi, j'en ai une.
Lorsqu'on parle de cette question de l'avortement, on a parfois en face de nous des sophistes qui essaient de nous rétorquer, de nous mettre en difficulté en citant des auteurs, des philosophes traditionnels, en particulier saint Thomas d'Aquin ou même Aristote, oui, en disant que l'être qui est dans le ventre de la mère a d'abord une âme, vous savez, une âme
végétale, animale,
puis animale, et puis donc que l'humanisation se produirait. Et alors, souvent, quand on parle de la biologie moderne, on est un peu... surpris par ce genre de réaction, et il compte sur cette citation des philosophes réalistes de l'époque,
oui,
pour nous mettre mal à l'aise. Alors que répondriez-vous ?
Alors En fait, c'est assez facile parce qu'il y a deux réponses à donner. La première réponse, c'est que, supposons que saint Thomas, en l'occurrence, ait raison. Ce qui n'a d'abord qu'une âme végétale, dans ce cas, est tout de même ce qui va acquérir progressivement les autres capacités. Donc, ce que vous faites alors en avortant, c'est de détruire un être humain en cours de formation. Et donc, vous le détruisez à un moment extrêmement précoce, mais vous empêchez un être humain de venir au monde. Donc, déjà pour saint Thomas, ce serait absolument irrecevable comme argument. Alors simplement, c'est vrai qu'alors des théologiens au XVIe, XVIIe siècle ont dit que l'avortement était toujours un péché mortel, mais pas toujours un meurtre. Voilà. Donc ils disaient qu'un avortement qui est fait dans les premiers jours ne constitue pas un meurtre, mais c'est un péché mortel, puisque c'est s'opposer au mouvement même de l'ordre naturel. Donc ça c'est une réponse pour simplement historique. Du reste, la vraie bonne réponse, c'est que saint Thomas disait ce qu'il disait, parce qu'il se tenait au courant de la biologie de son époque, et que, acceptant donc l'état de la science et les données de la science telles qu'elles lui étaient présentées, eh bien, il tâchait de philosopher en tenant compte de la science de son temps. En quoi il faisait bien? Parce qu'il se montrait extrêmement raisonnable, il ne se montrait pas dogmatique, mais très accueillant vis-à-vis de l'état actuel de la science. La démarche thomiste aujourd'hui, ce n'est pas d'être le perroquet de saint Thomas, c'est d'avoir l'attitude de saint Thomas, c'est-à-dire l'attitude d'ouverture tout à fait sereine vis-à-vis de ce que la biologie nous enseigne aujourd'hui. Si la biologie aujourd'hui a fait des progrès, nous devons en tenir compte. Et donc nous ne pouvons pas faire comme si il n'y avait pas eu de découverte biologique depuis Aristote. Il y en a eu et c'est très bien, et c'est un signe d'intelligence que d'en tenir compte. Simplement, voilà, Aristote, qui est la principale source de saint Thomas ici, Aristote n'avait pas les moyens d'observation dont nous disposons, et donc il a fait ce qu'il pouvait faire avec ses propres moyens d'observation. Et donc, il aboutit à des conclusions que nous savons être erronées parce que nous finissons par observer mieux avec de meilleurs instruments. Donc, avoir la démarche de saint Thomas, c'est avoir la démarche d'accepter très sereinement et très lucidement ce que la science nous propose. Or maintenant, la science nous permet de voir très clairement et très facilement qu'il y a bien un être vivant qui se développe et que ce n'est pas une sorte de végétal d'abord. Voilà, on a bien quelque chose de beaucoup plus complexe parce qu'on a un accès à la réalité embryonnaire qui est beaucoup plus développé que celui de saint Thomas. Donc on a la même démarche et on arrive à des résultats différents. Monsieur.
Permettez-moi une question un peu tordue.
C'est très bien, nos interlocuteurs le sont souvent, donc il faut.
Croyez-vous, pardon, que cette intolérance dont vous avez été la victime de la part d'une université qui ose se dire catholique, vous l'auriez subie de la part de l'Université libre de Bruxelles, qui est une université franc-maçonne, mais oui, qui prône le libre examen?
Oui, c'est une question que je me suis posée. Eh bien, figurez-vous, pour l'anecdote, il est probable que ça se serait mieux passé dans cette université franc-maçonne. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a une raison très simple. C'est que cette université maçonnique à Bruxelles, tout le monde sait qu'elle est maçonnique, qu'elle est socialiste, qu'elle est laïque. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune preuve à donner, tout le monde le sait. Donc ils sont très décomplexés au fond. Ils n'ont rien à prouver au monde. Alors que l'université prétendument catholique de Louvain veut souvent donner des gages et dire au monde, regardez, nous ne sommes pas trop catholiques. Donc, voilà, c'est une manière pour eux de vouloir faire leur publicité en disant, mais regardez, s'il y a des méchants catholiques chez nous, on va les faire taire. Parce qu'ils savent bien que les médias, sinon, vont les accuser d'être des calotins. Et voilà. Donc, l'Université libre de Bruxelles n'a rien à prouver. Et le détail anecdotique amusant, c'est que lorsque je me suis rendu chez le recteur de mon université, j'y suis allé avec deux collègues avocats qui voulaient vérifier que tout se faisait selon le jargon juridique, parce que je n'y comprends rien, qui se sont fait accompagner par une de leurs amies qui enseigne la liberté d'expression à l'université maçonnique à Bruxelles, l'Université libre de Bruxelles. Et cette avocate a dit au recteur de mon université qu'elle n'était pas d'accord avec moi, mais qu'elle estimait que la moindre des choses était que des arguments philosophiques puissent être donnés dans un cours de philosophie, et que l'université catholique de Louvain était engagée sur une voie qui allait la faire ressembler aux universités turques qui sont sous le contrôle strict du régime. Le recteur a souri, mais n'a pas renouvelé mon contrat.
Oui, moi je reviens en arrière, je n'ai pas compris l'argument de, on considère saint Thomas d'Aquin, à ce moment-là, la biologie n'était pas encore avancée, etc. Et c'était une erreur par rapport à la vérité, c'est entièrement faux.
Oui,
et
bien
même
entendu.
Avec, subjectivement,
oui, bien sûr.
Sans avoir de connaissances philosophiques, tout le monde le sait. Donc pourquoi essayer de prouver à partir d'une erreur qu'il ressentait, que tout le monde, par rapport à la vérité, c'est faux, arriver à continuer pour, voyez, accepter une erreur de départ comme base en raisonnement.
Alors voyez-vous, je pense que ces observations étaient faites par rapport aux fausses couches et que nos ancêtres voyaient bien qu'un enfant de 2 semaines était un amas de cellules cohérent, pas filandreux ou autre. Il y a un terme médical, ça ressemble à une mûre.
La morula.
Et donc, actuellement, voyez-vous, ce que nos ancêtres ont peut-être observé, et sans doute très rarement, il faudrait être très sérieux pour discerner dans ce qu'on appelle les pleurs de l'utérus, une morula, parce que c'est très petit. Actuellement, avec les microscopes, on voit parfaitement cette cellule qui s'est divisée en 2, puis en 4, puis en 16, puis en 32, puis en 64, et qui finit par être à des milliers de cellules, mais toutes petites encore. Ensuite, vous avez un stade de développement plus important où on commence à avoir des formes et des personnes vont argumenter par rapport au début du cœur qui commence à battre et avec un système sanguin dans le corps de l'embryon. Et donc, si vous voulez, pour saint Thomas d'Aquin et pour les biologistes de l'époque, ils se disent, mais ça n'a pas, ce qui est sorti du corps de la femme, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, il n'a pas de tête, voyez. Et ça confortait des opinions, mais des opinions qui ne sont jamais développées par ceux qui nous opposent des objections, puisque le professeur Debré, qui fait de la procréation médicalement assistée, il faut savoir que la PMA, même au sein d'un couple marié, vous avez plein d'embryons qui meurent. Vous prenez les ovules de la femme, vous prenez la semence de l'homme, vous faites partir des petites vies, et puis il y en a qui meurent dans l'éprouvette, il y en a qui meurent dans le corps de la femme, ceux qui arrivent à s'accrocher, il y en a qui, parfois, rien, aucun des quatre, en général ces quatre, ne s'accrochent. Mais si vous voulez, il me disait... Mais ce n'est pas des êtres humains, c'est des amas de cellules pour moi, que j'essaye d'implanter dans le corps de la femme. Et alors là, je lui ai sorti ce qui fait un peu sourire, c'est très bien, mais saint Thomas d'Aquin dit que pour un garçon, c'est 40 jours pour avoir une animation par une forme immatérielle, une âme rationnelle, et pour les filles, c'est 80 jours. Alors, pourquoi saint Thomas d'Aquin pense ça? Eh bien, parce que c'était une suite, si vous voulez, de la réflexion synagogale où on faisait la présentation pour un garçon à 40 jours et la fille à 80 jours. Donc, imaginez au point de vue scientifique comme ça pourrait faire, comme ça fait sourire de nos jours. Voyez. Alors, ce à quoi ils vont répondre? Oui, bah alors disons au moins 40 jours, on fait une égalité maintenant, et c'est seulement au bout de 40 jours qu'il y a une âme humaine, voyez. Mais tout cela, ce sont des arguties par rapport à la réalité. La réalité et l'argument principal que vous avez donné, c'est un processus vital. C'est le stade de développement de l'être humain. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique a écarté toutes ces argumentations en disant, vous, même scientifiquement, comment peut-on dire et être sûr que le principe de mouvement de cet ensemble de cellules est végétal, animal, parce que, alors là, j'aimerais bien savoir comment, philosophiquement, les médecins font la différence entre une âme végétale et une âme animale, hein, de savoir comment un glaïeul pousse tout seul, et il y a une âme végétale, hein, c'est au sens large du terme, au sens philosophique du terme, il y a une âme dans un vivant. Or, une plante est un être vivant, il ne pense pas, hein, on n'en a pas vu les effets de la pensée, donc on considère qu'il ne pense pas. C'est comme les pierres, vous disiez les pierres. Mais pourquoi on considère qu'elles ne pensent pas? Mais parce qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais vu des effets d'une pensée. Ce n'est pas parce qu'elles sont inertes et minérales qu'elles ne pensent pas. L'argument philosophique, c'est qu'on n'en a jamais vu les actes. C'est tout. Les plantes aussi. Les animaux, ah, alors là, il y a de l'affectivité, il y a de la mémoire. Mais l'être humain, lui, il a l'abstraction. Il a le premier degré d'abstraction, les êtres, les espèces, le deuxième degré, le nombre, et le troisième degré, l'association. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, actuellement, tous ces arguments d'animation successive du fœtus et de l'embryon ne tiennent pas. Vous voyez, et l'Église catholique a été très précise, a dit tout cela, c'est de la réflexion avec des connaissances de l'époque. De nos jours, il est bien évident qu'on ne retient qu'une seule chose, c'est que c'est une espèce humaine en développement. Et donc, on considère que ce n'est pas une commande, que c'est toujours un crime, un meurtre. Et le magistère ordinaire de l'Église est très important. C'est-à-dire que l'Église, ce sont des théologiens du, vous m'avez dit, du XVIIe siècle, mais ce n'était pas l'Église. L'Église s'est bien gardée de parler de manière officielle, publique et magistérielle de ces discussions de théologiens. Et quand l'Église a parlé de manière solennelle, et c'est Jean-Paul II, pour le coup, a donné un enseignement régulier et profond, ce qui fait le magistère ordinaire universel, parce que l'Église ne peut pas se tromper sur une si longue durée, entre Pie XII et Jean-Paul II, eh bien, c'est indiscutable, dès qu'on cesse le processus vital humain, c'est un meurtre. Voilà. Et ça, c'est la grâce, c'est une grâce particulière dans l'Église catholique, d'avoir un enseignement universel qui fait autorité. C'est l'autorité aussi qui est importante par rapport à la discussion philosophique. À un moment, il y a l'argument d'autorité. Eh bien, il a sa valeur aussi. Hein. Même en philosophie, je crois que l'argument d'autorité peut avoir sa valeur.
Et alors, juste peut-être un petit élément aussi pour le... Vous avez évoqué l'expression du tas de cellules, c'est intéressant parce qu'on l'entend souvent. Nous aussi, on est des tas de cellules, au fond. C'est juste qu'il y en a plus. Le tout, c'est que depuis qu'on a découvert l'ADN, on sait que gros ou petit, le tas de cellules a une structure ADN cohérente, qui est durable. Et c'est ça qui compte. Donc en fait, toute cette idée à propos de Saint Thomas, c'est de réfléchir en acceptant les données de la biologie de notre époque. Et pas simplement répéter... ce qui a été dit à une autre époque en fonction d'autres données biologiques. C'est juste ça.
Merci pour votre leçon de philosophie. Excellent. Leçon de philosophie. Je suis d'accord avec vous que l'avortement est toujours un assassinat sanguinaire, terrible, Mais vous avez essayé d'évangéliser l'université catholique.
Non, j'ai essayé de les faire réfléchir.
C'était déjà trop. Voilà quels sont les résultats. Et ça se passe autrement au niveau des États. Parce que dans votre cas, c'est le niveau d'un particulier, en l'occurrence un professeur de philosophie et enseignant académique. Au niveau des États, je suis polonais et peut-être par la presse, vous savez que la Pologne, qui est toujours contre beaucoup de choses, ne veut pas autoriser la loi, et ne veut pas la loi qui autorise l'avortement. Imaginez-vous la pression internationale sur ce pays, sur son gouvernement. Ce sont les banques, le gouvernement européen, de l'Union européenne à Bruxelles qui est contre. Et quelles sont les sources de cette obstination? Pourquoi?
Alors, le philosophe n'a pas de réponse, mais le croyant, il en a une. C'est démoniaque, de toute façon. D'abord, c'est lié au péché originel, qui ultimement aussi a une racine démoniaque. Mais donc, c'est lié à ce désordre dans la nature humaine, qui est une recherche effrénée du plaisir. Et c'est une entreprise aussi profondément démoniaque de déstructuration de la réalité, en s'attaquant à ce qui est le plus fondamental. Et ce qui est le plus fondamental, évidemment, c'est ce qui nous touche de plus près. Donc le fond est clairement, dépasse de beaucoup les enjeux socio-économiques, bancaires, etc. C'est la raison pour laquelle le philosophe n'a pas du tout le dernier mot sur toutes ces questions. La réponse la plus appropriée, évidemment, il faut parler, il faut discuter avec les gens, mais la réponse la plus appropriée, c'est la prière. Parce que ce contre quoi nous luttons, comme dit saint Paul, ce n'est pas la chair et le sang, mais ce sont les puissances démoniaques. Au fond, c'est ça. Et c'est pourquoi il est très utile de faire ce que l'on fait dans le combat social quotidien. Mais plus profondément, ça se joue à un autre niveau qui est celui de la prière. Raison pour laquelle je compte sur vous pour prier pour moi. Soit dit en passant.
Et on peut encore rappeler que Jean-Paul II, avant de devenir le pape, et il était professeur de philosophie de l'université catholique, vraiment catholique, à Lublin. Et c'était un philosophe évident. Sa thèse sur Max Scheler, c'est un merveille.
Mais vous voyez que il ne faut pas être un grand philosophe pour aborder les questions qu'on a abordées ce soir. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que les questions les plus essentielles sont accessibles à tout le monde.
Ensuite, c'était l'enseignement magistral des papes, précédé quand même de
réflexion philosophique.
Oui, absolument.
Réflexion philosophique.
Parce que les deux vont de pair, bien sûr.
Durer des années.
Bonsoir, monsieur le professeur, merci pour votre cours. Moi, j'ai souvent un petit problème, c'est un argumentaire sur le droit à l'enfant, le droit à ceci, le droit à disposition. Enfin, et comment un argument qui soit un peu percutant. Je bloque beaucoup sur cette question. Merci de me répondre.
Alors, pour la question du droit, quand on dit, voilà, vous avez évoqué la question droit à un enfant, ça vaut la peine de faire réfléchir aussi les gens sur cette expression-là. Parce que quand on dit droit à un enfant, ça veut dire qu'un être humain devient l'objet d'un droit que moi j'aurai. Ça veut dire que vous transformez les êtres humains de sujets de droit qu'ils sont à objets de droit. Donc vous les déshumanisez. Personne n'est l'objet du droit d'un autre. Donc ça, c'est une première remarque importante à faire. Donc, quand on aborde toutes ces questions-là, on doit se rappeler que le droit est toujours la contrepartie d'un devoir. C'est-à-dire pourquoi les animaux n'ont pas de droit. Nous avons des devoirs vis-à-vis des animaux, c'est-à-dire vis-à-vis de notre propre rationalité qui doit traiter rationnellement le reste de la création. Mais les animaux n'ont pas de droit parce qu'ils n'ont pas de devoir non plus. Donc c'est cette contrepartie-là qu'il faut toujours évaluer. Un être humain est un sujet de droit et n'est pas quelque chose sur quoi vous avez des droits. Donc vous n'avez pas droit de vie et de mort sur un autre être humain. Vous n'avez pas droit de vendre un autre être humain. Donc pas de procréation, pas de gestation pour autrui. Donc l'être humain a cette dignité. Alors en tant que chrétien, on sait que c'est une dignité qui vient d'être à l'image du Créateur. Mais vous ne pouvez pas réduire l'autre être humain à un objet que vous allez pouvoir, dont vous allez pouvoir disposer en fonction de vos besoins, caprices, désirs, etc. Je crois que c'est là le véritable enjeu. Monsieur avait une question, oui.
Non, je voulais poser la question. Les autres têtes des hydres de l'herbe, c'est quoi, c'est le thanasie, je sais pas.
Alors ici, j'en ai simplement mis trois en évidence, donc qui sont pornographie, avortement, contraception. Alors il y a les choses qui sont liées, masturbation, pratique de l'homosexualité. Donc ici, ce que je visais essentiellement, ce sont les désordres liés à... au désir d'obtenir une gratification sexuelle qui est exclusive de ses conséquences naturelles. Voilà. Donc ça, ce sont les multiples têtes de l'hydre à ce niveau-là.
L'euthanasie aussi.
Alors l'euthanasie, d'une certaine manière aussi, puisqu'il s'agit de disposer de la vie d'un être humain innocent, à savoir soi-même, et d'imposer à d'autres de participer à ce geste meurtrier. Donc oui, il y a aussi là un même problème de vouloir avoir un contrôle total sur sa vie pour qu'elle soit gratifiante à tous les niveaux et d'avoir la possibilité de sortir de scène quand on estime que la gratification n'est plus satisfaisante. Donc c'est vraiment ça. Est-ce que c'est cette volonté d'affirmer une autonomie pour obtenir la gratification souhaitée? Voilà.
Bonjour. Comment expliquez-vous ce paradoxe actuel? On a cette volonté de, par exemple pour les animaux, maintenant on les considère comme des êtres doués de sensibilité, et paradoxalement,
ce sont des êtres doués de sensibilité.
On leur retire des droits.
Alors les animaux sont bien des êtres doués de sensibilité, et il y a une espèce de fantasme romantique qui fait que... Ben, les animaux c'est mignon, hein. Il n'y a rien à faire, pas tous. Mais un animal mignon, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que quand on a des enfants, moi j'aurai mon premier enfant au mois de juillet. Je vais donc lui acheter des peluches d'animaux parce que c'est mignon. Et c'est une manière aussi de ne pas vouloir raisonner au niveau de l'intelligence, mais de vouloir raisonner au niveau de la... Pas raisonner, mais de vouloir fonctionner au niveau de la sensibilité. Où on se laisse guider par des émotions. C'est mignon, c'est gentil, c'est joli. C'est très bien de penser tout ça, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la raison. Or, c'est ce qu'on observe dans une certaine mentalité un peu romantique contemporaine, c'est qu'il y a une espèce de mépris pour la raison avec ses exigences parfois un peu pénibles, et ça se fait alors au profit d'une sentimentalité sympathique qui fait qu'on va avoir davantage de compassion pour le petit chat qui traîne dans une boîte, parce qu'il est mignon, il a des grands yeux, plutôt que pour le bébé qui hurle dans son couffin. Mais c'est un refus de l'intelligence pour fonctionner exclusivement au niveau de la sensibilité. C'est se priver d'une partie de notre humanité.
Dernière question pour permettre aux personnes de rentrer chez elles.
Et de m'acheter mon livre. Voilà. Oui. Je vous garantis que c'est lourd, 18 kilos.
Depuis 10 euros, c'est vraiment très raisonnable.
Je serais très rapide. Vous venez de faire remarquer que nous pouvons nous prévaloir des conclusions que vous venez d'exposer sans être philosophe et sans nous targuer de diplôme de philosophie ou autre. Or, souvent, les élateurs de l'avortement arrivent toujours avec, évidemment, l'argument puisque, par conséquent, tout ce que vous venez d'exposer sont des choses avec des conclusions que vous avez atteintes seulement en utilisant votre cervelle, et par conséquent, vous ne pouvez pas, comme nous, avoir, par exemple, des chartes indiquant que les tests psychologiques ont été faits prouvant que les femmes qui avortent n'en ont aucune séquelle. Est-ce que, par conséquent, à la objection qu'ils nous font, puisque vous n'avez en fait aucune base solide, excepté votre cervelle, pour opposer l'avortement, qu'est-ce que vous opposeriez comme argument ?
Alors d'abord, on ne peut pas faire l'économie de notre cervelle, première chose. Deuxièmement, les statistiques sont massivement en notre faveur aussi. Donc les séquelles post-avortement, elles existent bel et bien. Donc le tout, c'est de voir que, bien entendu, il y a un pilotage idéologique de certaines études. Mais quand je vous donnais tout à l'heure les statistiques gouvernementales belges, qui vous disent que 99,8% des avortements sont faits dans des cas qui ne relèvent ni du viol ni de l'inceste, ce sont des statistiques tout à fait officielles fournies par le gouvernement belge. Et ces statistiques vous disent, noir sur blanc, que beaucoup de gens décident d'avorter parce que, je cite, « ma famille est complète ». Donc les statistiques sont là en notre faveur et on peut les regarder très très lucidement. On ne doit jamais avoir peur de ce qui nous est proposé de part et d'autre, parce que, comme croyant, d'abord, on sait qu'on est dans la vérité, et chaque chose qui nous est proposée, finalement, quand on la regarde bien, tourne en faveur de notre argument, à tous les coups.
Voilà.